Voix nue. Martin Kenéen s'entretient avec Jacques-Alain Miller. Aujourd'hui, troisième volet, rue Robespierre. Robespierre n'est pas le saint patron des psychanalystes. Il n'a pas de salle à son nom à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il n'a pas non plus de rue à Paris. Il n'est pas de ceux dont on écrit le nom sur les enveloppes, comme disait Jean Massin. La faute à une vilaine image de terroriste coupeur de tête, peut-être en un mot de Givaro, étymologiquement ce sauvage réputé pour décapiter ses adversaires et emprisonner à l'intérieur leur esprit vengeur en la réduisant patiemment. Jacques-Alain Miller, en qualité de psychanalyste, vous êtes tout le contraire d'un Givaro, mais vous vous revendiquez volontiers de Robespierre, avec qui vous avez pu partager le goût de la Révolution. Jacques-Alain Miller, vous dites justement avoir fait entrer Robespierre dans votre panthéon après la lecture de l'ouvrage que Jean Massin lui a consacré en 1956 et qui dénonce donc la chose suivante: il n'y a pas de rue Robespierre à Paris. Ce serait d'abord l'injustice faite à Robespierre qui vous a fait l'aimer ?
Oui, c'est sans doute un élément présent. Vers 12 ans, je me suis abonné, je suis devenu adhérent à ce qui s'appelait le Club français du livre, qui proposait des livres sous des belles reliures, mais des livres intéressants, de beaux papiers. J'ai beaucoup aimé ça, cette formule. Et donc j'ai reçu, dans ce cadre-là, le Robespierre. Alors, moi, j'ai toujours réfléchi sur... À un moment, c'était, je vous ai dit, juif, français, cosmopolite, que suis-je ? Et j'ai décidé, français, aussi français que n'importe qui, parce que la francité ne tient pas aux racines, et donc on ne viendra jamais me reprocher mon manque de racines et tout, je suis enraciné dans la littérature française et dans l'esprit français. Bon. De la même façon, quand j'étais en classe de 3e, donc, c'était la Révolution, ils se tuent les uns les autres, qui a raison, Danton ou Robespierre ? Et donc je me creusais la cervelle pour ça. Évidemment, Danton, c'était bien sympathique, coureur de jupons, menant grand train, mais prenant dans la caisse comme Mirabeau lui-même ou d'autres. Bon. Robespierre, un peu fripé, petit, et puis bon, coupé les têtes et tout. Et je tombe sur le Massin, et pour moi c'est l'illumination. Il me démontre d'abord que ce sont... ces fameux Girondins qu'adore Solers et qui me renvoient toujours que moi je suis plutôt jacobin et que je ferais mieux de prendre la graine des Bordelais et compagnie. Bon, je suis tout à fait prêt à l'écouter d'ailleurs, comme toujours, mais je découvre quand même que c'est les autres qui ont voulu la guerre, qui ont voulu répandre la révolution par la guerre, et que Robespierre était extrêmement prudent sur le point, et que, avec beaucoup d'esprit, d'anticipation, etc.
Bon. Il avait prévu l'avènement d'un général, d'un dictateur.
En tout cas, il était hostile à répandre la révolution par la guerre, alors que les autres se sont lancés dans la guerre. Bon. Deuxièmement, que... alors, évidemment, c'est un livre qui est très pro-Robespierre, il est revenu un peu sur certaines choses après, mais je n'ai pas lu la deuxième version. Mais que, au fond, pendant la terreur, de la période dite de terreur, ceux mêmes qui ont été les pires terroristes, les plus infâmes, ceux qui ont crevé le fond des bacs pour que les gens se noient, carriés à Lyon, ce sont les mêmes qui ont fait son affaire à Robespierre, parce qu'ils avaient peur que, précisément, Robespierre se tourne contre eux, et que donc c'est les pires canailles qui ont renversé Robespierre, et on a vu après, il y a eu la terreur blanche, dont tout démontre qu'elle était, elle a été plus meurtrière que la terreur jacobine, et ça a été la fête des corrupteurs, des corrompus. Alors, à côté de moi, la petite vie agréable des corrompus, je ne crache pas dessus, si vous voulez, l'évocation de Barras entre Madame Tallien, la belle Madame Tallien, et Joséphine de Beauharnais, qu'il se tapait avant de la refiler à Napoléon, c'était des évocations qui ne déplaisaient pas forcément aux petits lycéens de Janson de Sailly, n'est-ce pas ? Mais quand même, du point de vue fondamental, la ligne juste, la ligne noble, la ligne du destin français, la ligne de, qui avait résisté à l'envahisseur, c'est le comité de salut public. Il faut voir ce que ça a été. J'ai été fasciné par le comité de salut public, et c'est pour ça aussi que j'ai adoré le livre de Michon sur les 11, qui vraiment pour moi faisait vibrer, m'a fait retrouver les émotions. Et à l'époque, je trouvais qu'il n'y avait pas de livre assez clair sur le comité de salut public, qui pour moi était... Et quand, en mai 68, d'ailleurs, je me suis retrouvé à Besançon, où j'ai créé le comité d'action, pour moi, c'était sur le fond de ces souvenirs. Les autres, ils étaient occupés par la révolution russe, qui ne m'a jamais fait rêver, moi, je m'excuse. Je respectais, bien sûr, mais moi, c'était le comité de salut public, et qu'en effet, il fallait que les généraux gagnent, et sinon, on leur coupe la tête. Bon, ben, c'est une façon de démotiver. Hein.
Est-ce que c'est vrai que vous aviez le portrait de Robespierre dans votre chambre ?
C'est ce que j'ai dit, et c'est tout à fait vrai. À un moment, justement parce que je savais qu'il était honni de partout, etc., ça c'est déjà comme Lacan, n'est-ce pas ? Donc je suis allé sur les quais de la Seine, j'avais 13 ans, et je me suis, jusqu'à très longtemps, tant que j'ai vécu chez mon père, ma mère, eh bien, dans un cadre à côté de mon lit, sur la table de chevet, il y avait le portrait de Robespierre. Oui.
Vous faites un parallèle, Jacques-Alain Miller, entre la situation de Robespierre et celle de Jacques Lacan. Est-ce que ce n'est pas votre cas d'avoir été honni, vous aussi ?
Alors, bah, écoutez, ça ne l'était pas. Moi, j'avais prétendu... Alors, j'ai découvert que, en effet, j'ai commencé à être honni au moment de la dissolution par Lacan de son école. On m'a mis ça sur le dos.
En 1980 ?
En 1980. Je comprends bien pourquoi, parce que Lacan, ses forces avaient baissé, au point que Judith, ma femme, ne voulait plus... Le docteur Lacan, jusqu'à 2 ans avant, vivait en compagnie d'une jeune femme qu'il a quittée. Et donc, il était, elle l'a quitté, enfin, elle ne vivait plus avec lui, donc le soir, il était seul. Et à un moment, Judith a pensé que c'était pas bien que son père reste seul le soir, etc. Donc, on habitait quai de la Mégisserie, elle a trouvé un appartement rue d'Assas, plus grand, dont on a été colocataire, lui et nous, la dernière année de sa vie. Et en effet, il logeait chez nous et... Enfin, chez nous, c'était chez lui aussi, donc, et il était conduit tous les matins par elle ou par Abdou, le mari de Gloria, qui a été ensuite ministre des Affaires étrangères du Congo. Il était conduit à son cabinet et il recevait ses patients pendant la journée. Donc, il est sûr que nous avons constitué à 4, Gloria, fille de républicain espagnol, arrivée en France sachant à peine le français, qui est entré au service du docteur Lacan en 1949 et qui ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort et en qui il avait une confiance absolue, lui et elle aussi. Elle disait, on n'était pas très chaud à un moment, elle allait au Congo, on demandait qu'est-ce qui allait en sortir. Elle disait, ben, si on m'arrête, le docteur Lacan, il me sortira de tout. Elle avait cette confiance. Et Lacan avait aussi une confiance totale en elle. Abdou, lui, avait milité avec Kabila dans les maquis, il y a longtemps, il avait connu Che Guevara, il avait serré, il a sa photo avec Mao, et puis après, il avait quitté ça pour faire quelque chose à l'UNESCO, enfin, des petits boulots à Paris, à l'UNESCO, et quand Kabila a repris le pouvoir, il en a fait son ministre des Affaires étrangères, et donc Abdou nous racontait qu'à la tribune de l'ONU, il citait Lacan, qu'il parlait de Lacan avec l'archevêque de Kinshasa, etc. Bon. Et donc on a été la garde du docteur Lacan, c'est vrai. Judith, Gloria, Abdou et moi, et que si on n'avait pas été là, ça n'aurait pas été facile pour lui. Bon. Et donc... Ils m'ont mis sur le dos tout ça, la dissolution, le truc et tout. Mon propre analyste s'est tourné contre moi, m'a traîné dans la boue, etc. Et je n'avais pas encore reçu un seul patient à cette date. C'était pas parce que je ne suis pas entré en analyse pour recevoir des patients, je suis entré en analyse parce que j'en avais besoin. Parce qu'après le gauchisme, à la sortie de tout ça, j'étais un peu... j'étais à la... C'était dur de retrouver une boussole dans le monde, etc. Bon. Et donc, mon propre analyste m'a écrabouillé, piétiné. Et au fond, ça m'a décidé. Évidemment, je me préparais à être analyste sans doute, puisque j'allais aux présentations de malades de Lacan, j'avais refait toute une culture de clinique que je n'avais pas. Moi, j'avais une culture, j'ai lu les cliniciens français, les grands textes, j'ai lu les auteurs analytiques, tout ça, c'est une seconde culture que j'ai acquise, qui n'est pas du tout la culture de base. Moi, j'étais ferré dans l'idéalisme transcendantal, la philosophie antique, le Wittgenstein, enfin, le philosophe. Et donc j'avais fait ça, mais je ne peux pas dire que ça ne cristallisait pas en décision d'être analyste. Et avec l'idée que la vie de psychanalyste, où il faut recevoir des gens tout le temps, et on ne peut pas lire, on n'a pas le temps, je trouvais que c'était plutôt infernal. Mais le fait qu'on s'en prenne à moi comme ça, que mon propre analyse me traîne dans la boue, que ce milieu entier des gens que j'avais frayé, tout ça, me massacre. Ils ont commencé un réseau de lettres qu'ils envoyaient tous les jours, et tous les jours on voyait des saletés qui arrivaient, des injures, etc. Là, je me suis dit, ou je me couche, ou je me lève. Quoi. Là, il y avait un choix à faire, et j'ai dit, très bien, j'y vais. Et j'y suis allé.
Ah. Avant qu'on revienne à cette installation, à cet établissement peut-être comme analyste, je voudrais qu'on revienne à Robespierre. Vous avez évoqué, oui, Jacques-Alain Miller, votre engagement gauchiste. Robespierre, c'est aussi, et peut-être avant tout, l'incarnation de la Révolution. Est-ce qu'il a été votre daimon quand vous avez rejoint les maoïstes, en particulier après 68?
C'est un chemin, donc il passe par Althusser. C'est-à-dire, moi j'admirais Althusser, donc Althusser avait besoin de nous, on sentait qu'il avait besoin de ses élèves, il avait besoin, bon, on lui donnait ça. Mais un jour, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit, pour m'aider, si vous voulez m'aider, alors il faut que vous entriez à l'Union des étudiants communistes, il faut que tu le dises à tes copains.
À l'UEC,
il me reconnaissait, une capacité de conviction. Et donc j'ai réuni dans une turne, il y avait Milner, Robert Linard, qui était mon alter ego en Hippocagne, en Cagne, qui s'était un peu éloigné, parce que lui, il est entre troisième concours, donc pendant 2 ans, je ne l'ai pas vu. Et puis Rancière, ami surtout avec Milner, mais on était partis à un moment ensemble, tous les trois, Milner, Rancière et moi, en Norvège. Et donc je leur ai dit, Althusser voudrait qu'on... On a discuté entre nous du désir d'Althusser, et on a décidé de se conformer à ce désir et d'entrer à l'UEC. Je me souviens... Linard, après, est donc devenu le créateur de l'UJCML, c'est son groupe qui figure dans la chinoise.
L'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes.
C'est lui qui a inventé le film de Godard, c'est tout entier sur l'esprit du groupe qu'il a créé par la suite. Puis il a souffert en mai 68, et visiblement, j'étais un élément de son délire, et donc j'ai cessé de le voir à ce moment-là. Je crois que je ne lui faisais pas de bien, ma simple présence, mais je l'aimais beaucoup, on était inséparables, et donc on a discuté, et on a décidé d'adhérer. Je me souviens qu'ensuite, le soir, en repartant, on allait repartir chez nous, parce qu'on était, on était dans ma voiture, juste en bas de la rue d'Ulm, au coin, et on riait avec Robert, tous les deux on aimait beaucoup Time Magazine, Newsweek, on lisait ça, et je lui dis, un séjour on verra notre photo à toi et à moi, avec Reds, Miller and Linard, les rouges c'est comme ça, Reds, Miller and Linard, on sera dénoncé comme ça dans la presse américaine, et on riait, pour dire qu'au point de départ, c'était vraiment pour lui. Mais alors, ensuite on a été tous les deux délégués au congrès, parce qu'on était les jeunes adhérents, Miller et Rancière, ils n'avaient pas envie de faire ça, donc on est allé représenter le cercle d'UM des étudiants communistes au congrès de 64. Je ne sais plus où c'était, dans la banlieue. Et au fond, moi je suis revenu en me disant, mais quelle comédie, mais c'est pas croyable, qu'est-ce qu'il raconte comme conneries. Et puis il y avait le type du parti, très gentil, un type qui s'appelait Gagère, qui regardait par-dessus mon épaule parce que j'allais rédiger une motion, et qui me disait, change ce mot, sans ce truc. Je regardais en me disant, mais c'est pas vrai. Et au fond, je suis revenu, moi, moqueur. Pour moi, c'était pour faire plaisir à Althusser et tout. Et Robert, lui... Ça a été un moment de rencontre, il a été très applaudi par la salle, et donc je me souviens, on venait déjeuner chez mon père, rue Boissière, et je lui dis, vraiment, qu'est-ce qu'on nous fait pas faire hein, comme truc, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour Althusser? Il m'a regardé d'un œil sévère, et là je me suis dit, ah, là j'ai senti qu'il y avait une divergence entre nous. Quoi. moi je prenais pas ça, je trouvais ça ridicule et ses formes politiques, je n'y adhérais pas, et que lui, au contraire, il avait rencontré quelque chose de très important, et donc ça s'est accentué. Alors, du coup, quand le parti a dissous les cercles parisiens, moi, j'ai pas réadhéré, Miner n'a pas réadhéré, etc. Et on est, au contraire, devenu les... qu'on a appelé les lacanois-althusseriens. Bon, on a créé les cahiers pour l'analyse, et la thèse de Miner et moi, en tout cas la mienne, c'était que le néo-capitalisme a réussi son coup. C'est-à-dire, il n'y aura pas de révolution, c'est pas possible. Bon, je me souviens de François Bloch-Lenné, qui était un haut fonctionnaire, qui est venu nous faire un exposé. Bon, nous étions marxistes, on le regardait de haut, mais on croyait qu'en effet, il n'y aurait pas de possibilité révolutionnaire. Bon, mai 68 arrive, dans les rues de Paris, au moment où les gens se battent, je discute avec Milner du prochain numéro des Cahiers pour l'analyse, qui devait être qui était passé au seuil, et où il y avait des articles de Gödel avec qui j'avais correspondu, de Bertrand Russell dont j'avais obtenu l'autorisation, il y a des questions de traduction que j'examinais avec Milner, on était au milieu, on traversait, j'habitais rue de Bussy, on traversait le boulevard Saint-Michel où il y avait des types qui lançaient des pierres et tout, on s'en apercevait. Attends, mais ça n'a pas l'air incroyable. Je me souviens quand même, dans le couloir assez long du 15 rue de Bussy, il y avait des gaz lacrymogènes. Bon, après, il faut mettre son mouchoir, d'accord, et on montait et on continuait de discuter comme ça. Et donc, pas du tout réveillé de ce point de vue-là. Et puis, tout de même, je suis allé voir le samedi matin que la rue Gay-Lussac, où je m'étais quand même aperçu qu'il s'était passé quelque chose par la radio. Et donc là, j'ai vu que c'était sérieux. Après, j'ai vu l'Odéon occupé. J'ai eu horreur de ça, cette atmosphère de libération. Pour moi, c'était pas mon genre et j'y croyais pas.
Vous voulez dire de libération un peu frénétique de
oui,
la parole.
Oui, c'est ça, de parole, du reste, un peu orgiaque et tout ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé, si je puis dire.
C'est votre côté incorruptible ?
Non, mais que c'était une fête un peu débile, comme ça, que c'était pas, bon, ça m'a pas enthousiasmé. Et j'étais turboprof, c'est-à-dire j'étais à Besançon, et là, reprenait, il fallait que j'aille le jeudi à Besançon, j'y suis allé à mon heure. Et j'étais bien décidé à rentrer tranquillement, finir mon numéro des cahiers pour l'analyse et tout. Bon. Alors, il y a la réunion des profs. Et là, j'entends parler un prof communiste avec sa barbe, je le revois encore, qui s'appelait Barney, et il explique qu'il faut vraiment que tout ça s'arrête parce que c'est les plus défavorisés des étudiants qui vont souffrir si les cours ne se déroulent pas normalement. Et là, ce côté de vouloir écraser la révolte, c'est une révolte que, au fond, je ne partageais pas vraiment, mais... De voir ce type, au nom du Parti communiste, expliquer, hein, le parti a changé au cours des événements, etc. Mais là, c'était, et avec ce chantage, oh, les plus défavorisés vont souffrir du truc et tout. J'ai eu envie de lui répondre. Et je me tenais à quatre en disant, ne dis rien, si tu mets le petit doigt là-dedans, tu vas y passer tout entier, ne dis rien. C'était ça mon image, de mettre le petit doigt et pfft, que je serais débité. Et puis, je n'ai pas tenu. Et donc, je me suis levé. Et en effet, vous avez raison, c'était bien Robespierre, finalement. Ouais, j'ai tenu un discours, j'ai dit, pendant la Révolution française, il y avait ceux qu'on appelait les enragés. Oui, il y avait ceux aussi qu'on appelait les endormeurs. Et vous venez d'en écouter un. Et je me suis lancé contre ce prof avec une violence qui me venait d'où ? De la Révolution française, enfin, je ne sais pas. Et je suis descendu après, et sur la pelouse, il y avait... 1000 étudiants répartis, ou 1500 ou 2000, je ne sais pas, ou peut-être moins, enfin il y avait une masse. Et j'ai commencé à parler et à meuter. Et alors tous les chefs de courant, là, à Besançon, c'était formidable, il y avait tous les courants trotskistes, il y avait les anards, il y avait les communistes, les socialistes et tout, ils me voient, ils voient arriver le jeune prof, j'étais là depuis un an, qui se met. Et donc, ils étaient tous, d'ailleurs, pas contents que il y avait leur solidarité corporatiste de leader de groupe qui voyait, j'étais un élément du mouvement de masse, comme on dit. Et puis, je me lance avec mes souvenirs de trucs, et que c'est les ordonnances contre la sécurité sociale qu'a prise le gouvernement. C'était pourtant le père de Jean-Noël Jeannet que j'avais fréquenté à l'école normale. On avait même partagé une turme, peut-être. Et donc, je parle contre ça. Et puis, je dis qu'il faut aller voir les ouvriers de la Rodia Ceta, parce que j'ai lu dans le journal qu'il y avait des ouvriers à la Rodia Ceta et tout. Et donc, je deviens le pivot. Et alors, le micro passe, comme ça s'était fait. Et alors les chefs bon, veulent retrouver un peu de prise sur les gens, et le lanard chef, j'ai oublié son nom, mais je le revois tout habillé en noir, comme ça, assez esthétique, quoi, qui dit, traversons, on va prendre le théâtre de Ledoux. Il y a la grande pelouse de l'université, il y a un porche, vous passez le porche, vous traversez la rue qui est très étroite, et vous êtes au théâtre de Ledoux. C'est ravissant tout ça. Et donc, ils proposent d'occuper le théâtre de Ledoux, comme à Paris, ils ont occupé l'Odéon. Moi, je trouvais que c'était complètement idiot, que c'était idiot à Paris, que ça allait être encore plus idiot à Besançon, qu'ils allaient casser des choses qui étaient précieuses et à préserver, et qu'il valait mieux aller à la Radio Seta. Et donc, je me précipite sous le porche, avec le micro, et j'arrête 2000 personnes, ou les 1000 personnes qui s'apprêtaient à occuper le théâtre, et le théâtre n'a pas été occupé. Et parce que j'ai parlé. Et ça, ça m'a lié à ce mouvement. Le fait que les gens m'aient donné ça, qu'ils m'aient écouté au moment où allait se déchaîner justement une frénésie populaire, et je ne sais pas ce que ça aurait donné dans le théâtre, ça n'aurait certainement pas été heureux comme effet, et qu'ils m'aient écouté et qu'ils se soient dirigés vers les usines plutôt que de faire cette pantomime, je me suis senti lié, et donc j'y suis passé tout entier pendant quelques années, quoi.
Et en même temps, Jacques-Alain Miller, vous dites que vous êtes entré en analyse dans les retombées de mai 68,
oui.
C'est qu'il y a eu aussi, là, pour vous, un impossible à supporter.
Ah, bah écoutez, j'ai donné ce que je pouvais. C'est-à-dire que... Alors, à ce moment-là, je me suis gouré. Hein, que quand je pensais que le néo-capitalisme avait réussi son coup, je venais de recevoir une claque. Je l'acceptais humblement, si je puis dire. Donc, je me disais, mais les autres avaient raison. Robert avait raison. Et donc, je me suis relié à ce groupe-là. D'ailleurs, les Maoïstes. Qui est venu nous apporter les petits livres rouges à Besançon? Blandine Kriegel. Blandine que j'avais aimée beaucoup quand j'avais 20 ans. Même, je peux le dire, j'ai été amoureux d'elle quand j'avais 20 ans. Eh bien, Blandine est venue nous apporter, qui après a été conseillère de Chirac et tout, et toujours amie et toujours charmante. Mais c'est elle qui est venue nous apporter les petits livres rouges, elle y croyait plus que moi. Hein. Et donc, qu'il fallait lire et que ça allait être très utile pour tout ce qu'on allait faire à Besançon. Et donc, j'ai décidé, moi, je ne voulais pas décrocher. Donc, les gens ont commencé à décrocher petit à petit au début de juillet, mais moi, je ne voulais pas décrocher. Bon. Au point qu'on a finalement été une poignée et que le secrétaire général, qui s'appelait Rouquayrol, je me rappelle encore, à un moment, il a fermé les portes et puis on a été dehors. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Miller de me rejoindre et il est venu me rejoindre. Et nous avons commencé à écumer la région pour continuer le combat. Et donc faire des enquêtes à Sochaux pour savoir s'il y avait des ouvriers tués, voilà, et on s'est relié à la gauche prolétarienne, essentiellement parce que c'était le groupe héritier du groupe de Robert. Robert, lui, était tombé malade, et donc il était remplacé par Benny Lévy, qui était son second, que je connaissais très peu, et qui ne m'a jamais attiré dans ce... C'est pas lui qui m'a attiré là-dedans, pour moi, il prenait la suite. Et je me suis retrouvé là parce que c'était les gens qui n'avaient pas arrêté pendant les vacances, hein, qui n'étaient pas partis en vacances le 15 juillet en disant « la révolution est terminée ».
La révolution ne prend pas de vacances.
Voilà. Exactement, et donc, alors j'ai connu les cheminots qui m'appelaient le bourgeois, bon d'accord, ça me donnait un signal, mais ils étaient formidables, j'ai connu les paysans du coin, j'ai connu les lycéens, dans le Jura, dans tout ça, j'ai connu tout ça. Et au bout d'un an, on fait un truc pour dire, non, il n'y a pas de ferment de révolution en France, après avoir vu tout ça. Pour moi, ce qui a fermé vraiment la chose, c'était, il y avait un jeune ouvrier, plein d'allants, vraiment, c'était le modèle même de ce qu'on cherchait, et tout. Et on est devenu très proche, il m'a invité chez lui. Sa femme a ouvert la porte, elle a dit « mettez des patins ». Et elle m'a montré, ils avaient un mobilier flambant neuf, elle m'a dit « tout ça est à crédit ». Alors vous avez compris, pas de conneries. Et au fond j'ai respecté ça, et j'ai compris que, en quel sens le néo-capitalisme avait réussi son coup. C'est-à-dire qu'il était formidable ce garçon dehors, mais il rentrait à la maison, il mettait sa patin. C'était quand même la bourgeoise, comme dit Lacan, qui tenait les cordons de la bourse, et qu'ils avaient une petite vie qui avait son confort, même si c'était une vie d'exploité, et que c'est pas avec ce gars qu'on allait faire la révolution. Et donc... Après avoir vu les agriculteurs, les ouvriers de Sochaux, etc., notre conclusion, c'était que il n'y avait pas de ferment révolutionnaire en France. Et j'ai rapporté ça comme rapport à une réunion secrète qui s'est tenue, plus ou moins, qui se tenait dans une à la banlieue parisienne, où il y avait Benny Lévy, Gessmar, Julie, un gars qu'on appelait Pierre Darras, et qui était en fait devenu journaliste plus tard, enfin, il y avait d'autres. Et notre rapport était mis en pièce, même pas considéré, c'est-à-dire on était des défaitistes, et que la ligne c'était « on va casser ». Il faut casser, et qu'en cassant, on allait donner l'exemple à la classe ouvrière qui allait, elle aussi, se mettre à casser. Donc il fallait qu'une petite troupe, au fond, pratique une violence pour entraîner derrière elle les autres. Moi, je n'étais vraiment pas pour ça. D'abord parce que c'est exactement la théorie de Georges Sorel. Et là, si j'avais suivi le bon bout de la raison, comme dit Rouletabille, j'aurais pas suivi les folies qui ont commencé. Mais là, au fond, j'ai remisé la raison au magasin des accessoires. C'était un acte pascalien, en quelque sorte. D'abord parce que je m'étais trompé déjà une fois. J'avais cru que mai 68 était impossible. Or, ça s'était produit. Donc, j'avais perdu confiance dans mes facultés de raisonnement. Ma confiance qui était haute dans mes propres facultés d'analyse et de raisonnement. Et puis, j'aimais mes camarades. Je ne voulais pas les quitter. Et puis, il y avait l'idée, alors, un peu qu'ancienne sans doute, enfin, que si peu qu'on puisse faire du bon côté, du côté de la classe ouvrière, ça vaut toutes les merveilles qu'on pourrait faire ailleurs. Donc, ce n'est pas la question de ce que je pouvais faire dans la société par ailleurs, etc. C'était que si peu que ça puisse être dans le bon sens, ça valait mieux. Donc, je n'ai même pas réfléchi à faire autre chose, à vrai dire. C'est maintenant que je reconstruis, j'ai suivi. La majorité a décidé. J'avais beau avoir mon avis, il n'avait pas changé. Et donc, j'ai suivi et j'ai été le second de... Mais je n'ai pas voulu diriger de région parce que je n'étais pas assez convaincu de la justesse de ça. Et donc, j'ai été le second de Gessmar en Normandie. Et alors, Gessmar, que j'ai beaucoup aimé, qui est devenu inspecteur général de l'éducation nationale, qui l'aurait cru, mais bon, il faut bien gagner sa vie. Gessmar, il me disait des choses comme, eh ben bon, on va écumer la région, et puis quand on sera trop connu de la police et tout, on ira dans une autre région. Je lui disais, mais la police est nationale en France, c'est même pas comme les États-Unis où il y a... Mais il y avait de ces naïvetés comme ça...
C'était à voix nue, Martin Kénéen s'entretenait avec Jacques-Alain Miller.